Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu ?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, ça va super et toi ?
Ça va bien. Un peu chamboulé, nous sommes vendredi. Hélas, ce podcast vidéo, tout ce que vous voulez, va tomber le samedi. Normalement, il tombe le samedi, contrairement à la blague qu'on fait chaque semaine. Parce qu'on a dû décaler à cause d'un événement Microsoft qui s'est déroulé pour nous hier soir. On va y revenir, mais avant, petit sommaire. Dans la première partie de l'émission, je vais vous parler de Grand Blue Fantasy Relink, un JRPG encore de ce début d'année. Nico, après, tu vas enchaîner avec un jeu d'actu qui vient de sortir, qui s'appelle Banishers.
Banishers Ghost of New Eden.
Je n'avais pas le nom entier.
Voilà, et qui est sorti cette semaine.
Exactement. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique, la chronique, non pas du tout la rubrique, retour sur, on va directement aller à l'événement d'hier. C'était un official Xbox podcast, et contrairement à ce qu'on peut penser, un podcast c'est aussi vidéo.
S'est renseigné.
Le podcasting, c'est aussi
voilà,
vidéo.
Ça n'a rien à voir avec l'audio, le podcast.
C'est un peu ce qu'on fait.
Voilà, exactement.
Donc Microsoft, pris de panique, prend la parole, c'est un peu ça, et en gros... Qu'est-ce qui s'est passé ? 20 minutes de prise de parole
Ouais, alors c'était un événement au mieux, on va dire, un peu bizarre, hein, et les mauvaises langues diraient même que c'était un peu douloureux à regarder, je trouve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on a vu, on en a parlé la dernière fois, il y a eu ces rumeurs qui faisaient état que Xbox allait partir multiplateforme, porter leurs jeux, parfois même leurs jeux emblématiques en fonction des rumeurs sur les consoles concurrentes, notamment à la PS5, ce qui a évidemment défrisé tous les fanboys du monde entier. Et donc, ça s'est emballé à un point assez ouf, et donc, il fallait que Xbox clarifie ça. On avait vu que Spencer n'avait pas nié les faits et avait dit, ben, on se retrouve sur une émission pour en parler, donc on se doutait qu'il y avait un chamboulement. Lui-même parlait de redéfinir la ligne directrice du business Xbox pour le futur, donc on s'attendait à un gros truc.
Oui.
Et voilà, circuler, il n'y a rien à voir, mais bon, c'est plus compliqué que ça. Alors déjà, c'était un environnement hyper contrôlé, hein, c'était pas en live, il n'y a pas de public. Les questions de la présentatrice, évidemment, étaient écrites à l'avance, donc ils étaient là, en gros, en safe place, on peut dire. Il y avait quand même Spencer, Matt Booty et Sarah Bond, donc les trois têtes de Xbox aujourd'hui, 1, 2, 3, on va dire, quoi. Et malgré tout, je trouve que je les ai sentis fébriles comme rarement, en fait. Oui. Notamment Phil Spencer, qui est toujours très à l'aise, hein. On sait, il a l'habitude, il sait communiquer facilement, il est toujours un petit peu langue de bois, mais il a quand même la maîtrise de son sujet.
Oui.
Et là, je l'ai senti un petit peu perdu, le filou. Alors, pour résumer, ce qu'on va dire, c'est que, en gros, ils nous ont dit, ben, il y aura 4 jeux qui vont sortir sur les plateformes concurrentes, uniquement 4 jeux. Ils ont pas voulu donner les noms, là aussi, ce qui était un peu bizarre. Donc, on a joué au charade, un petit peu. Alors, c'est 2 jeux qui seront 2 jeux live service et 2 jeux qui sont pas des triple A. Donc, tout le monde en a déduit que, vis-à-vis des rumeurs, que c'était Sea of Thieves, Grounded et
Firewatch
et Pentiment. Donc finalement on se dit bon bah il y a pas le faux lac, et après ils ont passé 15 minutes à dire ah non mais le business de Xbox, et ils ont rabâché ce qu'ils nous disent depuis des années.
Oui.
Et c'est là où je trouve qu'il y a un souci, en fait, c'est que tu ne fais pas une conf, tu dis pas on va définir le futur de Xbox et tout pour juste dire ben en fait il y a rien qui change. Donc évidemment tout le monde dit ah là là ça y est, les rumeurs, les influenceurs, les leakers, c'est eux qui sont emballés, en fait, rien ne s'est passé comme il imaginait, c'était du vent. Mais je trouve que dans la forme et comme on a vu le truc se dérouler, en fait, c'était que je pense qu'ils avaient raison, mais c'est que il y a eu un backlash tellement fort des joueurs que Xbox a rétro-pédalé à vitesse grand V et que c'était en mode à circuler, à rien à voir, en fait, rien ne change, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que t'as l'impression, en fait, qu'ils savent plus trop dans quelle direction ils vont. Et au final, on sort de cette émission avec autant de questions et autant de zones grises qu'avant d'y aller, en fait.
Oui.
D'autant plus que, en parallèle de la diffusion de ce podcast, Phil Spencer a accordé une interview à The Verge, à Tom Anderson, justement un de ceux qui a fait sortir les plus grosses rumeurs à ce sujet et qui maintient quand même pas mal ses affirmations après coup, et dans lesquelles, dans la vidéo, quand on pose la question à Phil Spencer si Starfield et Indiana Jones sortiront sur PS5, il y aura les grands dieux jamais de la vie, ça n'arrivera pas. Alors que déjà, dans l'interview, on rappelle, hein, diffusé en simultané, il est déjà plus nuancé en disant ah vous savez faut jamais dire jamais, hein, on peut pas garantir qu'aujourd'hui une exclue d'aujourd'hui le sera toujours, vous savez que le business du futur c'est pas forcément les exclus, donc en fait de toute façon Xbox suit la ligne qu'ils ont tracée depuis l'arrivée de Spencer à la tête du truc, et on sait que c'est la direction qu'ils prennent, hein, c'est moins de hardware, plus de services, que avoir disposé le Game Pass au maximum de gens, et là on voit qu'ils ont peut-être voulu accélérer un petit peu et que ça a pas plu aux joueurs, quoi. Donc là-dessus, on se pose la question. Alors, il y a quand même eu Sarah Bond, ils ont été assez élégants pour lui laisser les bonnes nouvelles, on va dire, mais c'est un peu le sucre que tu mets dans le sirop pour que le gamin il puisse le bouffer. Donc on te sort un Diablo 4 sur Game Pass, on te dit qu'il y a du hardware en préparation, notamment la next gen qui sera la plus console la plus puissante du monde, enfin une promesse à peu de frais évidemment, tout en teasant qu'il y aura aussi une annonce hardware dans l'année sur potentiellement ce qu'on imagine être peut-être un device portable, comme les rumeurs le laissent entendre là aussi. Mais c'était clairement là pour donner un petit bonbon, pour faire passer le truc. Parce que c'est vrai que ça remonte, je dis, ils ont été élégants parce qu'elle vient de se retrouver propulsée à la tête de Xbox et elle se prend le shitstorm comme ça 2 mois après son arrivée, donc ça aurait pas été cool de la foutre sous le bus là-dessus, donc ils ont laissé les bonnes nouvelles et Spencer a quand même été là pour répondre aux questions, quoi. Donc voilà, je viens de faire un tunnel
de
10 minutes. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es d'accord, parce que j'ai vu des gens qui disent ça, non mais finalement oui, bah écoute, ça c'est, il y avait rien à dire en fait.
En fait, moi, je suis assez d'accord avec toi. On est face à une situation de crise, une réunion de crise où on voit les trois huiles, hein, tu l'as dit, le 1, 2 et 3. Donc, PDG Microsoft Gaming, président Xbox et responsable des jeux et studios. Donc, il manquait que Satya Nadella, qui est le boss Microsoft. Mais je pense que symboliquement, il était absent pour dire que c'était la tête de Xbox qui était là.
Ouais, ouais, là, c'est un problème Xbox, quoi.
C'est un problème Xbox. Mais c'était vraiment, rarement, on a vu, je crois, ben, peut-être rarement, tu vois, les trois en même temps, prise de parole unique, pour s'adresser aux joueurs. Bah, tu l'as dit, c'est juste qu'il y a eu une montée de bouclier, une levée de bouclier complètement ouf. Ils n'ont pas su un petit peu gérer, mais, et tu l'as dit aussi en filigrane, je pense qu'ils sont sur une politique longue. Ils voient à long terme, ils ont parlé plusieurs fois de 5-10 ans, mais rappelez-vous, il y a 5-10 ans, ou il y a 5 ans plutôt, tout ce qui était Xbox One, le tout des maths, c'était déjà le cas. Ils étaient en avance sur la vision, et là, ils vont continuer. Quand il y a eu le rachat de Bethesda, quand il y a eu le rachat d'Activision Blizzard King, tout le monde a paniqué en disant « Ah là là, les jeux ne seront plus multiplateformes », et c'est Microsoft qui, déjà à l'époque, disait « Mais arrêtez de gueuler, enfin les jeux Bethesda, on verra s'ils seront multiplateformes, ça sera du cas par cas. Activision Blizzard, pareil, tous les deals qu'il y a eu avec Sony et consorts, justement pour qu'il y ait du multiplateforme, finalement, tout ça n'est qu'un écran de fumée pour dire bah, « On va continuer à faire ce qu'on avait dit ». Et toutes ces rumeurs sont vraies, mais c'est juste que ça met des coups de pied dans la fourmilière pour dire « Ça va accélérer, tout va arriver du jour au lendemain, on va se retrouver avec Halo et Gears of War sur PlayStation ». Peut-être un jour, mais certainement pas demain, je pense.
Ouais, alors moi, je crois à la rumeur, là aussi, enfin, la rumeur. On peut faire, là, on en est qu'au stade où on fait des suppositions, parce qu'évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux. Mais je crois, moi, à la supposition que toutes ces rumeurs-là ont été données sciemment, tous ces noms de jeux ont été donnés sciemment à divers, enfin, leakers, influenceurs, je sais pas comment on peut les appeler, quoi. Pour, justement, jauger aussi, la réaction du public.
Pour prendre le pouls, quoi.
Bah, tu sais, ça fait un peu, tu sais, comme quand tu cherches une taupe, en fait, tu donnes des informations différentes à chacun et tu vois laquelle ressort.
J'ai vu Game of Thrones.
Et là, enfin, là, c'était chacun y allait de son scoop, chacun y allait de son jeu. Et en fait, tu te rends compte que c'était, ouais, peut-être vraiment pour prendre la température, en fait, de voir jusqu'où les joueurs Xbox étaient prêts à accepter.
Ouais.
Là, j'ai l'impression que tu leur dis Hi-Fi Rush, Pentiment, souké, bah, allez-y, tu sais, genre, ça va, personne ne sera contre. Et pour le coup, je trouve que, tu vois, un jeu comme Pentiment, moi, que j'ai beaucoup aimé, ben, mérite d'avoir d'être mis en lumière encore plus. Mais oui, effectivement, ça laisse un espèce de flou encore. Quoi.
Je suis d'accord, mais peut-être pour ajuster à terme qu'ils deviennent éditeurs et que les jeux soient sur toutes les plateformes, pourquoi pas. Mais là, dans un premier temps, si ça va arriver dans 10 ans, voir. Ben alors, qu'est-ce qu'on peut faire en premier temps? Est-ce qu'on va faire uniquement le Bethesda, Activision Blizzard pour un petit peu ajuster? On va pas tout de suite mettre Gears of War partout. Un petit peu observé, comme tu dis, prendre le pouls, et ils ont vu que bah, là, la réaction, elle était un petit peu virulente. Mmh. En tout cas, c'était pas une R-conférence. Je pense que ce qu'il y avait...
C'était y jongler 100 balles, quoi. C'était très bizarre à voir, quoi.
Bah, moi, je dirais que, exactement, c'était bizarre à voir, parce que je pense que dans cette conférence, dans cette prise de parole, il y avait rien à entendre, mais il y avait tout à voir, en fait. Ça servait à rien de les écouter, il fallait juste regarder les numéros 1, 2, 3 assis sur des chaises, sérieusement, nous parler, mais pour nous parler de quoi? Juste pour répéter la politique
Puis tu sais, ils s'envoyaient des fleurs en mode, t'as dit ça, je suis trop d'accord, mais tu. Enfin, après ils se sont détendus, mais je trouve le début c'était un petit peu bizarre. Et il y avait un truc aussi chelou, c'est que ils ont ressorti presque des images d'archives, des grands moments Xbox. Rappelez-vous à cette conf qu'on annonçait la console la plus puissante. Putain, c'était bien.
Commémoration.
C'était vraiment ressouder un peu la communauté. Souvenez-vous, enfin un peu convoquer un peu les souvenirs, les bons souvenirs et tout. C'était un peu, ouais, à contre-feu, quoi. C'est vrai que, enfin, faut dire qu'en l'espace de 2 semaines, on est passé des rumeurs de Xbox sera éditeur tiers, Xbox va annoncer de nouveaux hardware. Donc, c'est un peu confus, mais je suis pas sûr qu'ils ont rassuré grand monde. Il y a quand même une info qu'on a attirée, c'est les abonnés Game Pass. On n'avait pas eu d'info depuis 2 ans et demi, je crois, donc 35 millions. Sachant que ça compte les comptes Xbox Live qui ont été transformés en compte Game Pass Core. C'est clairement pas énorme, je trouve. On n'a pas une
avancée
spectaculaire, quoi.
C'est pas dingo.
Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il y a eu l'invité surprise qui s'est venu foutre le bordel malgré lui. C'est le président par intérim de Sony, un petit peu, qui est venu faire sa conf pour les résultats financiers. Et qui a dit, parce que lui, c'est vraiment le financier. C'est pas le mec, il est pas là pour défendre un étendard ou quoi, comme on disait. Hein, c'est le capitalisme. Il y a un seul truc, c'est l'argent, quoi. Et qui a dit, bah ouais, on a des marches pas ouf. On n'a pas vendu autant qu'on espérait. Pourquoi, enfin, est-ce que le multiplateforme, c'est pas une bonne solution, quoi. Donc, c'est rigolo d'avoir vu ce petit discours-là, pile dans cette fenêtre. Ce qui a fait un peu relativiser aussi tout le monde, quoi. Et on l'a dit, c'est que, enfin, notre mission sur les business models du AAA, on est encore en plein dedans, quoi. C'est que l'économie du jeu vidéo aujourd'hui, en tout cas pour les gros jeux, elle tient qu'à un fil.
Et c'est compliqué de recouper, de rentabiliser sur une plateforme unique. Et ce que fait Microsoft déjà en sortant Day One sur Microsoft et PC, ils ont un parc installé qui est grand, mais ils, pour certains titres, peut-être à un moment, ils atteignent une limite d'exploitation et aller chercher des parcs ailleurs, bah, c'est tout simplement aller chercher d'autres joueurs, quoi.
Ouais. Et si PlayStation sort des remasters et des remakes de chacun de ses jeux et qu'ils attendent peut-être encore d'avoir un parc installé suffisamment important pour sortir la grosse cartouche sur PS5, bah c'est peut-être pas un hasard non plus, donc il faut bien comprendre les tenants aboutissants là-dessus. Mais on va pas refaire le débat d'il y a 3 semaines, mais c'est un peu inquiétant, je trouve.
Ouais, c'est un peu inquiétant. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'était un dispositif énorme dans la forme, mais pas grand-chose à dire sur le fond. Mais c'était quand même quelque chose à voir.
Ouais, mais c'est quand on dit l'éléphant à couche d'une souris, oui, on est un petit peu là-dessus. Quoi.
Voilà pour ce retour sur. Juste deux petites informations encore dans cette rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière. Tu nous parlais de Silent Hill Short Message. On a eu un résultat, 2 millions de téléchargements.
Bon, c'est gratuit, donc c'est difficile à jauger, mais bon, ça montre qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à Silent Hill encore, quoi.
Pas trop mal. On a eu un autre chiffre aussi. Alan Wake 2 serait vendu à 1,3 million. Ça, c'est pas trop ouf, je trouve.
C'est pas un carnage. En même temps, j'aurais envie de dire qu'on s'en doutait un peu. C'est la suite d'un jeu qui a pas très bien marché, qui sort 13 ans après le premier épisode. Moi, j'espère que maintenant, on va passer dans la phase bouche à oreille positive qui va engendrer des ventes. Après, nous inquiétons pas pour Remedy, parce que le dev était payé par Epic Games, donc a priori, ça va, ils sont pas mis en danger financièrement, quoi.
Voilà. Et donc, Epic Games, la plateforme des maths, le pourquoi le jeu est en dématérialisé, peut-être, est-ce que une version physique va arriver? Est-ce qu'il y a un impact sur ce full, enfin, le fait qu'il soit uniquement distribué en démat, qu'il soit un peu moins vendu?
Bah, fatalement, ça doit jouer, c'est sûr, mais moi, je mets mon bras à couper que t'auras la Game of the Year édition quand les deux DLC seront sortis en boîte et tout le monde sera content, quoi.
C'est un peu ce qu'on vient de dire avec Microsoft et les multiplateformes. Là, être un jeu qui serait uniquement disponible en démat et qui, dans un second temps, va chercher en fait le marché physique, c'est en chercher de nouveaux joueurs en plusieurs temps, plusieurs façons de recouper.
Ça devient un move qu'on voit. Baldur's Gate a fait ça, et on voit que même dans le cinéma, hein, ça commence à arriver avec maintenant des sorties VOD qui précèdent de plusieurs mois les sorties physiques.
Oui.
Quand sorties physiques il y a, donc on voit que t'as un souhait évidemment de privilégier le démat pour faire plus de thunes, mais quand même d'arriver au physique derrière. Donc bon, j'ai envie de dire, finalement, tout le monde est content, peut-être. Donc
voilà pour ces quelques retours sur. On va attaquer directement, si t'es chaud, avec Granblue Fantasy Relink. Mais avant, j'ai une question pour toi, pour vous. Est-ce que vous savez ce qu'est la dissonance ludonarrative? Alors, c'est un hasard complet, mais il est possible qu'on en parle dans la seconde partie de l'émission avec Banishers. Alors, la dissonance ludonarrative, c'est un conflit entre le récit raconté à travers l'histoire et le récit raconté à travers le gameplay. J'espère que vous n'entendez pas notre voisin qui fait des travaux.
Comme le conflit entre des gens qui enregistrent un podcast et un mec qui a une putain de visseuse juste à côté.
Je pense que ça s'entendra pas. On verra bien. L'exemple le plus connu, c'est peut-être celui de Uncharted et son héros Nathan Drake, qui est sympa et rigolard et qui, à côté, fait des génocides à chaque niveau passé. Mais bon, je vous conseille à ce sujet la vidéo de Game Next Door qui s'appelle 15 ans de dissonance ludonarrative, qui est intéressant. Et qui revient sur l'historique de ce phénomène et qui explique aussi qu'à terme, son usage un peu abusif a fait perdre de sa signification.
Ouais, et puis c'est quelque chose qui énervait un petit peu Naughty Dog aussi, quand on l'a rappelé.
Voilà, donc on vous conseille d'ailleurs notre bouquin sur Last of Us ou Uncharted, évidemment, qui revient sur ce sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de dissonance, mais pas forcément de ludonarrative. On va parler aussi de Granblue Fantasy Relink. Mais avant, on va faire un petit point sur Granblue Fantasy, parce qu'on n'est peut-être pas tous au taquet sur cette saga. Et à raison, vous allez voir pourquoi. Alors à la base, Granblue Fantasy, c'est un jeu mobile qui est sorti en 2014, qui a été développé par un studio japonais qui s'appelle Cygames, et qui a été fondé par Cyber Agent, et ça on le sait un petit peu moins, qui est un groupe de pub et de téléphonie. Et c'est énorme.
Okay.
Et on va comprendre qu'ils ont quelques ressources. Donc c'est un JRPG au tour par tour, donc sur téléphone. avec un système de gacha pour enrôler de nouveaux persos.
Le classique.
Donc, voilà. Un système de gacha, c'est un système de hasard, on va dire. C'est sorti très, très tard sur, en France, et aujourd'hui encore, hein, ce jeu Granblue Fantasy Mobile, on peut pas le trouver sur l'App Store. Faut passer par, Google ou par Android.
Okay.
Donc, c'est vraiment pas évident.
C'est pas bon signe.
C'est pas bon signe. Même si, ouais. C'est peut-être Apple qui a mis un petit stop, je sais pas. C'est un jeu qui a généré 1 milliard de dollars en 4 ans, donc c'est des chiffres à fin 2018. Depuis, j'en sais rien, mais c'est pas mal.
Bon, ça a été un carton, oui.
On n'est pas sur Alan Wake 2, du coup. Et donc, de ce succès, du coup, vont découler pas mal de projets, normal, hein, on va un petit peu fructifier tout ça. Il y a eu Granblue Fantasy The Animation, donc c'est un animé en 2 saisons, qui a été diffusé en 2017-2019 au Japon, et c'est produit par une division du studio Cygames, donc c'est Cygames Pictures. Donc on commence à voir qu'ils ont des moyens. Hein. Donc, juste au passage, la saison 2, elle a été réalisée par MAPPA, donc le studio qui est derrière les saisons final de AOT, donc à l'Attaque des Titans, c'est dispo en France sur Crunchyroll, si jamais.
Okay.
Et si vous êtes chaud en manga, il y a un manga papier en 8 tomes qui est chez Pika. Voilà. Après, il y a eu Granblue Fantasy Versus, donc le jeu de combat qui est sorti en 2020, qui a été développé par Arc System Works. Donc, c'est les gars derrière Guilty et Dragon Ball FighterZ. C'est pas n'importe qui. Il y a eu une autre version du jeu, Maximum Impact, donc qui s'appelle Granblue Fantasy Versus Rising, qui est sorti en 2023. Donc, un petit peu d'actu sur le jeu de baston et la licence juste avant la sortie de ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Granblue Fantasy Relink, qui a été, alors là, on va revenir un petit peu à l'historique. Vous allez voir que c'est un jeu qui a été annoncé en 2016 et qui devait sortir à l'époque en 2018.
Ah, il a avancé vite après la sortie du mobile, quoi.
Et donc, oui, c'est quand ils étaient en balle, là, ils ont mis en branle tous les projets. Et donc, il y a eu plus de 8 ans de développement. Alors, plus de 8 ans, je pense largement plus, parce que la première vidéo qu'on voit sur PS4, on voit que le niveau, il est ultra fidèle à ce qu'on a aujourd'hui en 2024. Okay. Donc, vraiment, ils avaient déjà bien amorcé le truc, et c'était déjà sur des bases solides, des bases d'un développement qui était normalement confié à Platinum Games. Ils ont travaillé quelques années dessus, et ils se sont retirés en 2019, un move classique.
On n'a jamais trop su, effectivement, si... je pense que c'est... Platinum qui faisait pas du taf.
C'est un truc, Platinum, ils font, on s'en va, on revient. Ah bon, comme souvent dans les développements compliqués, ça revient en interne. Donc c'est Cygames Osaka. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un groupe qui est énorme, ils ont des ressources très importantes. Donc voilà, pour un petit peu l'historique de Granblue. Maintenant, on va attaquer les dissonances, parce que vous allez voir Granblue Fantasy Relink, c'est un peu une dissonance en lui-même. Donc déjà, vu le nom, Relink, je trouve qu'on pourrait croire que le jeu est un lien en fait qui va unifier tous les autres titres. On s'attend donc à un jeu qui va nous initier, nous expliquer, d'autant plus qu'en France la licence elle est pas si importante que ça. Eh bien du tout, c'est pas du tout le cas. On est jeté in media res, comme on dit, directement au cœur de l'action et on comprend pas grand chose. Alors c'est pas mal, je trouve, parce qu'on évite le prologue mou du genou. Mais le souci, c'est que l'exposition qu'on attend, elle arrivera jamais. On comprend pas qui on contrôle, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on fait. En plus, dans ce début d'aventure, tout est assez effervescent. Il y a beaucoup de choses partout, il y a beaucoup d'effets, ça parle, il y a plein de persos, il y a plein de héros. Et là, PTSD, tu vois, j'ai le trouble du stress post-traumatique. Alors PTSD, oui, mais lequel ? Et là, c'est celui de One Piece Odyssey. Je vous renvoie au Red Alert 129 pour comprendre un peu plus ce trauma. Donc One Piece Odyssey, c'est l'équipage d'un bateau qui est déjà formé, avec beaucoup de membres. Et là, j'ai un souvenir pas très agréable qui me revient.
Oh, pas très agréable, je sais pas.
Je sais pas. Mais One Piece Odyssey, j'ai peut-être plus apprécié. On verra. Donc, dans ce Granblue, on sent qu'on prend le train ou le bateau en route. Et ce qui est triste, c'est que le jeu, il fera aucun effort pour nous expliquer la situation. Alors, il y a bien des quêtes de personnages pour nous présenter le passé des héros. Mais ça, c'est... un truc qui va nous faire penser à Xeno 3, mais rien à voir. Ça, c'est uniquement de la lecture. Tu vas dans ton journal de quête, là, et en fait, t'as des sous-menus où tu vas avoir 10 chapitres, t'appuies, et t'as un visual novel, t'appuies, t'as tout le passé des personnages.
Okay.
Alors, c'est gratifiant parce que tu gagnes de l'expérience en lisant. Et au bout des 10 chapitres, tu peux gagner 2 slots pour avoir des runes en plus. Mais c'est un visual novel qui va t'expliquer le background de tes personnages.
Et genre, ça se tient en 3 minutes ou en 20 minutes ?
Chaque chapitre, c'est 3-4 minutes. T'en as une dizaine et qui se débloque au fur et à mesure de l'aventure. Tu peux pas te taper les 10 direct.
D'accord.
T'as aussi une encyclopédie accessible depuis le menu pause, classique. Mais bon, c'est de la lecture encore. Mais bon, moi j'appelle pas ça un effort, j'appelle ça tout juste un pansement. Et dans le jeu, comme je vous l'ai dit, on se retrouve dès la première minute avec un groupe là, qui est de 6 personnages jouables, plus 2 personnages qui sont assez importants. Donc l'un qui est le cœur de la quête et l'autre un petit dragon qui t'accompagne. Mais lui il parle, donc c'est un perso. Donc tu te retrouves avec 8 persos qui se connaissent tous, et ça, c'est la team de base. Et dès la première ville, tu vas croiser des gens, des marchands qui vont te dire « Ah, on a vécu tellement de choses ensemble !» Et en tant que joueur, je me suis clairement dit « Vas-y, est-ce que je dérange ?» Parce que là, moi, je sais pas de quoi...
Je vous laisse.
Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est assez problématique, parce que souvent, un héros de JRPG, il ignore tout ou partie des enjeux, voire même de l'univers dans lequel il évolue. Oui. Justement, pour coller un petit peu avec le point de vue du joueur, qui lui aussi, il pipe rien, quoi. Les héros de... J'entends Damien parler, il parle très fort.
Là, il se tape des barres à côté.
Est-ce que c'est à cause de Grand Blue ? Je ne sais pas. Donc le héros, notre avatar, c'est notre représentation aussi, parce que c'est notre porte d'entrée dans l'aventure. Il est comme nous, un petit peu ignorant. Et le personnage principal de Grand Blue Fantasy, c'est un perso, un vrai perso random, un coquille vide, à la différence que lui, il a déjà tout vécu, il sait tout, il connaît tout le monde, mais il ne nous en fera jamais part. Et de mémoire, je me suis jamais senti aussi exclu dans un jeu vidéo. Est-ce que Nico, t'as un souvenir d'un jeu qui t'a dit reste où tu es, reste à ta place, il ne t'invite pas?
Ouais, non. Après, souvenir cinéma où j'ai vu Hunger Games 3 sans avoir vu les deux premiers, mais ça, c'était ma faute.
Ouais, mais c'est un petit peu ce feeling-là.
Ouais, ou comme quand t'arrives en soirée chez des gens qui sont potes et toi, t'es un peu le plus one et que tu sais pas trop, quoi.
Exactement. Cette petite sensation, moi, c'est ce que j'ai eu au début et ça m'a suivi un temps. Alors, dans un sens, on est un peu face à une dissonance ludonarrative, mais c'est une nouvelle forme dans laquelle cette fois la rupture existe entre le récit connu des personnages et le récit connu par le joueur. Alors, ok, on se sent extérieur à l'univers, aux enjeux, mais finalement, quand on creuse, est-ce que l'histoire est intéressante et surtout, est-ce qu'elle va le devenir ? De plus, cet épisode, il est censé être le jeu le plus ambitieux de la série, vendu comme un vrai gros JRPG. On attend peut-être pas un Final Fantasy Killer, mais on est en droit d'attendre un bon scénario.
Ouais, il y avait quand même une attente et un buzz sur ce jeu.
Clairement. Alors, dans les faits, pour vous résumer, on doit délivrer un membre de l'équipe qui s'est fait enlever au début du jeu. On va d'île en île, en île flottante. Alors, ultra cliché, mais c'est pas grave. Et ceci en tuant, au passage, des créatures primordiales. Cliché aussi, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et c'est tout. Jusqu'à la fin du jeu, c'est ça, il va falloir aller délivrer notre comparse qui s'est fait enlever. Et le jeu ne consiste qu'à ça. Aller sauver notre pote.
Et du coup, ce pote, tu sais qui c'est ?
Oui, oui. Tu sais qui c'est ? Au début, moi, elle s'est fait enlever. Donc, c'est une nana. J'ai fait, elle s'est fait enlever. Elle a l'air d'avoir des super pouvoirs. C'est elle, en fait, qui va un petit peu invoquer ses grands primordiaux. Et tu vas aller les défoncer en même temps que tu la poursuis pour aller...
Peut-être pas, quoi.
Peut-être pas trop, mais elle fait pas exprès. Parce qu'elle elle est possédée. Elle a un collier de possession, là. Et tu
évidemment. Ah, oui. Le fameux collier de possession.
Bon, à la fin, ça part un peu en sucette. C'est un JRPG, heureusement. Mais bon, c'est quand même qu'à la fin, on est sur une quête où il va falloir aider notre ami. En fait, comme dans One Piece Odyssey, ce Grand Blue Fantasy Relink, c'est un spin-off avec un scénario qui est prétexte, n'ayant pas d'impact sur le lore global de la saga. Bon, il semblerait, en tout cas, après, j'ai peut-être pas tout compris. Et du coup, on est face encore à une nouvelle forme de dissonance, mais cette fois, la rupture, elle est entre l'ambition du jeu, être un grand JRPG, et ce qu'on fait réellement dans le jeu. Après, même si je trouve que c'est légitime de pas condamner un scénario nul dans un JRPG, dire que son ambition unique narrative, et uniquement narrative, je trouve que ça serait une erreur. Tu vois, tu peux dire, c'est un JRPG, le scénario, il est nul. Bon, mais est-ce que c'est que ça, tu vois ? Mais du coup, la proposition de Grand Blue Fantasy Relink, c'est quoi ? Alors, c'est un action RPG qui est très dynamique, avec un système élémentaire, pas comme FF16. C'est un jeu qui est magnifique, t'as pu voir des trailers, franchement, il est super beau. Avec des musiques de Uematsu, pas comme FF16 du coup, et Narita, donc ça c'est le compositeur de la série. Je suis pas ultra fan de l'intégration de la musique, franchement c'est rare de dire ça pour ma part, mais j'ai plus apprécié à côté que pendant le jeu. Okay. La façon dont c'est déclenché, j'ai vraiment pas ultra kiffé. C'est un JRPG qui est très beau, mais c'est pas un monde ouvert. C'est pas grave, mais c'est un titre qui est plutôt linéaire, dans lequel tu vas te télétransporter, tu vas te TP entre chaque mission, entre chaque île céleste. Alors, tu vas découvrir l'île du feu, l'île de la glace, c'est vraiment super original. Alors, je blague, mais ça, c'est pas grave du tout. Encore une fois, c'est cliché, mais c'est pas le souci. Vas-y.
Ouais, tu TP donc entre chaque île, ça je comprends, mais même entre chaque mission, c'est-à-dire que t'as pas ce côté aventure tenue.
Chaque île, c'est une mission.
D'accord. Okay,
tu vas d'île en île, en fait, t'as un bateau volant qui va d'île en île. Et donc, quand une espèce de grand un grand hub qui est t'as deux villes dans le jeu et tu vas revenir quand tu veux pour
c'est
aller
au comptoir d'émission quoi.
C'est un comptoir d'émission. Le souci c'est qu'il y a pas vraiment de plaisir d'explorer, c'est qu'il y a pas beaucoup de combats de mobs aussi, tu vas pas te fighter beaucoup. En revanche dans le jeu il y a beaucoup de boss. Ça il y en a pas mal, c'est des combats qui sont longs, très impressionnants mais qui sont surtout très longs. Autre truc c'est que ça parle tout le temps en combat, pendant l'exploration et c'est aussi le bordel à l'écran. Il y a plein d'infos. Mais bon, si vous aimez les Xenoblade, Grand Blue Fantasy Rolling, c'est plutôt épuré et silencieux. Alors la vanne est gratuite, hein, je suis désolé, mais c'est surtout pour dire que ce Grand Blue, il est dans l'air du temps, dans le sillon des derniers Tales of, Xeno, Star Ocean. Enfin, il semblerait qu'il soit dans ce sillon. Du coup, tout sonne comme quelque chose de très classique, alors que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, on est face à une dissonance. Là, il y a une rupture entre ce que le jeu renvoie comme image et ce qu'il est réellement. Et réellement, ben, on est face à un jeu d'à peine 12 heures pour sa quête principale, 15 heures max. Et là, on comprend clairement que l'aventure principale, ben, c'est pas le cœur de la proposition. Même si on avait un peu commencé à le capter avec le scénario tout cheap, hein, et le peu de cinématique pendant l'aventure. Ok, mais du coup, c'est quoi la proposition? Alors, quand tu vois que le jeu, il te présente rapidement son histoire et qu'il te déroule un tapis rouge pour le post-game, pour le end-game, pour le very end-game, et tout ça, c'est des vrais termes, hein. Quand le jeu, il te révèle qu'il a un chapitre secret et qu'il a une seconde fin et qu'il y a un arbre de compétences cachées pour les personnages montés au max, bah, du coup, l'intention, elle est claire. Le but, c'est de faire poncer le jeu dans tous les sens, mais une fois la quête principale terminée. Et on commence aussi à bien comprendre où on atterrit quand on constate que tout le end-game s'est articulé autour de mécaniques de farm, de drop et de RNG. Et si vous avez pas compris ces termes, clairement, Grand Blue, c'est pas pour vous.
Même si vous avez compris.
Même si c'est pour... Ah, ça dépend. Si vous avez compris, c'est peut-être pas pour vous non plus. Et en fait, on comprend clairement aussi que le bourbier dans lequel on est, c'est que une fois que l'histoire, elle est terminée, on s'en fiche de ça. Une fois que t'as terminé l'histoire en facile ou en normal, donc ça, c'est le truc de 12 heures, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure, bah, tu débloques le mode difficile, mais uniquement pour les quêtes annexes. L'idée, c'est pas de refaire l'histoire en boucle comme dans un Diablo, c'est de pousser la difficulté dans les quêtes secondaires. Ce sont ces quêtes, en fait, qui te feront débloquer le chapitre secret, qui s'appelle le chapitre 0, hein, on va complexifier un peu pour rien. Et c'est en terminant des quêtes particulières, qui s'appellent des quêtes de rang évolutif, donc t'as tout compris, hein, ça porte bien son nom, c'est là que tu vas débloquer la seconde fin, mais surtout, tu vas débloquer des modes de difficulté extrêmes, démentiels, t'as cru que c'était fini, et non, intrépides.
Intrépides.
Et donc, pour info, les quêtes secondaires, ça se déroule dans des lieux que tu connais déjà, que t'as vu dans la quête principale, tu les fais en boucle, et avec les niveaux de difficulté, t'as des monstres en plus qui apparaissent, mais bon, faut aimer grinder, hein. Si t'aimes pas, c'est pas ton délire. En fait, Grand Blue Fantasy Relink, c'est pas un FF killer, parce qu'il veut pas être un Final Fantasy. Lui, il rêve plus d'être un Genshin Impact. Et là, bim, nouvelle dissonance. Grand Blue Fantasy Relink, c'est un jeu de gacha, sans tirage au sort, et sans microtransactions. Alors, nouvelle dissonance, mais dissonance compréhensible. Grand Blue Fantasy, c'est un jeu premium, qui est vendu plein tarif, là où Genshin Impact, c'était un free-to-play. Donc ça se comprend. Un free-to-play, comme les Grand Blue Fantasy mobile, le jeu de base. Donc, c'est un choix qui est radicalement opposé dans le système économique, mais dans le système de progression, bah lui, il reste sensiblement le même. Bon, c'est un choix qui paye pas mal, hein. Ils ont vendu 1 million de copies en 11 jours. À voir après sur le long terme. Mmh. On sait juste qu'il va y avoir un suivi qui est mensuel, en tout cas au début, gratuit. Pour le moment, hein, ça c'est sûr. Et donc, t'as déjà un nouveau niveau de difficulté, je crois, et t'as déjà des nouveaux persos jouables qui arrivent. Alors maintenant, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui va justifier de rester 100, 200 heures sur des quêtes annexes? Alors déjà, je pense qu'il faut arrêter de les appeler quêtes annexes, hein, vu la proportion du jeu qu'elles occupent. Parce que je vous ai parlé du système économique, du système de progression, mais le système de jeu, je vous ai encore rien dit. Parce qu'en fait, le cœur du jeu, au-delà des quêtes pas annexes, ce sont les persos. Il y a 19 persos de jouables, avec des gameplays qui sont pour le coup assez différents. Et c'est ça en fait le gros point fort du jeu. Au-delà du fait que les persos sont très attrayants parce qu'ils ont été designés par Minaba, directeur artistique au passage de FF6, 9 et 12. Mais c'est déjà l'époque de Grand Blue Fantasy Mobile, comme Uematsu. Ils avaient fait venir des grands noms, donc c'était déjà les designs de l'époque. Hein. Ils sont encore là. Et pour vous dire, le gameplay très différent par personnage. Par exemple, le héros principal... Tu peux choisir un mec ou une nana. Lui, en fait, c'est plus tu fais des combos, plus t'es en combo haut, plus les super attaques seront puissantes. T'as un autre personnage, il va avoir des papillons. Tu vas devoir faire des actions précises pour avoir un nombre de papillons élevé, et en fonction du nombre de papillons, tu vas taper plus fort. Okay. Mais ça peut aussi grave changer. T'as un personnage qui va, en fait, invoquer un esprit. Donc tu vas devoir faire des actions, des combos pour faire venir l'esprit. Une fois que l'esprit est là, ça débloque des coups, des buffs et des debuffs particuliers. T'as des persos qui sont à distance, qui sont avec des guns, avec des bombes.
Mais toujours à jouer sur le terrain en synergie avec d'autres personnages, quoi.
Exactement.
Après, j'imagine t'as pas les 19 persos sur le terrain, quoi.
Non, t'en as 4. Okay. Mais il y a un souci encore, une dissonance. En fait, le jeu propose 19 persos, mais ne nous incite absolument pas à en changer. Par exemple, seuls les 6 persos de base sont dans les cinématiques, quand tu vois le scénario. Du coup, bah, tous les grands moments scriptés sont avec les 6 persos de base, et c'est tout. Donc tu as ton héros, que lui tu ne peux pas changer, jamais, et si tu prends 3 nouveaux, bah, t'as ultra dissonance, quoi. À chaque plan, d'un plan à l'autre d'une cinématique, bah, ton équipe, elle change. Ce qui fait que, bah, moi, je me suis pas du tout attaché au perso. Et pour conserver un petit peu de cohérence, moi, j'ai même choisi tout le jeu de garder la team de base. Ce qui est assez dommage, je trouve, parce que je luttais contre le jeu. Je luttais contre son envie de me dire, bah, j'ai 19 persos. Ben, en fait, moi, j'étais là contre en dire, ben non. Alors, je vais me garder que ma team de base, comme ça, mes cinématiques, elles sont au raccord avec ce que je joue. Clairement, ben, le jeu, il ne nous invite pas du tout à essayer de nouveaux persos, du moins, encore une fois, dans la campagne principale. C'est encore une preuve que le vrai jeu, c'est le endgame, parce que la seule chose à faire, hein, pendant le endgame, ben, c'est changer de perso. Hein. Tu vas les essayer, tu vas grinder, tu vas, enfin, du coup, faire les quêtes annexes en boucle, dans des niveaux de difficulté de plus en plus élevés, pour les faire monter niveau max. Sinon, si tu peux faire un truc pour pas t'ennuyer, ben c'est jouer en coop, mais pas le solo, parce que l'ensemble du design du jeu est pensé pour être joué à 4, mais tu peux pas jouer en coop dans la quête principale. Le coop, c'est uniquement pour les quêtes annexes, et dissonance aussi. Mais bon, je vais m'arrêter là, vous avez compris, hein, que encore un élément qui nous indique que la vraie proposition du jeu, c'est le endgame, vous avez capté. Donc,
Ouais, mais ça va dans le sens de ce que tu dis, quoi, c'est clair.
Ouais. Et je vais terminer avec une dernière dissonance, plus personnelle cette fois. Alors il y a un truc que je répète tout le temps, c'est qu'on juge pas un jeu pour ce qu'il n'est pas. On juge un jeu pour ce qu'il propose, ce qu'on attend du jeu, ce qu'on projette, ce que le jeu aurait pu être si je sais pas quoi. Tout ça au final, ben ça vaut rien. Et j'ai eu un biais moi quand j'ai commencé Grand Blue Fantasy Relink, je l'ai abordé comme un JRPG ordinaire avec une grande histoire et avec une structure classique. Mais en fait, ce titre, ben il est rien de tout ça. Alors est-ce qu'au final moi j'ai aimé ? Ben non, pas vraiment. Mais parce que j'ai pas aimé, parce qu'il répondait pas à mes attentes. Mais je pense en fait que j'avais des attentes qui étaient mal placées. Une fois encore, il y avait une dissonance, mais qui me concerne personnellement cette fois. Une dissonance entre ce que j'attendais du jeu et ce qu'il est réellement. Donc, moi je vous le conseillerais, si ce que je vous ai raconté, ça a un écho chez vous. Mais si vous attendez plus un grand JRPG classique avec une grande histoire, une structure plus ou moins ordinaire, ben, vous pouvez essayer, ça dure que 12 heures.
Oui, mais cette attente, j'ai l'impression, moi, que tout le monde l'avait un petit peu, en fait. Parce que, comme tu dis, Grand Blue, c'est une licence qu'on connaissait pas, et on s'est tous attendus au jeu. Voilà, on savait que c'était l'éditeur mobile qui avait plein de thunes et qui voulait un petit peu, montrer les muscles. Parce qu'on sait que beaucoup d'éditeurs de free-to-play veulent passer au modèle premium, c'est aussi une question d'image, quoi. Et j'ai vu plein de gens comme toi, en fait, s'attendre à un RPG un peu à l'ancienne et être un petit peu déçus. Et c'est vrai que, dans ce que tu racontes, moi j'y vois un peu le concept dans Monster Hunter, quoi, sur le côté comptoir de quête, le côté quête annexe qui est juste un prologue, le côté faut changer de perso pour utiliser d'autres compétences dans le post-game.
C'est vrai, mais pour avoir fait un petit peu de Monster Hunter, moi j'ai surtout joué à World, j'ai pas eu du tout. Moi ce que j'ai aimé dans Monster Hunter, c'est le côté grisant de la progression, qui quelque part en fait est un décalque du sentiment que tu peux avoir dans un JRPG. T'as une équipe, un personnage que tu vas faire monter en puissance et tu as un pays sous des et à la fin tu vas affronter des dieux, et en fait t'as une vraie montée en puissance dans Monster Hunter. T'as tout ce qui est en fait mécanique chiffrée, progression d'expérience, tu l'as pas. Et en fait la mécanique est uniquement sur ton stuff. Et en fait tu te sens de plus en plus puissant parce que tu vas avoir de meilleures armures, de meilleures armes, et t'as une vraie progression. Là c'est assez différent. Alors je suis pas allé dans Grand Blue au niveau difficulté maximale, mais j'ai poussé le truc, j'ai joué plusieurs heures en quête annexe, et en fait t'as vraiment ce sentiment en fait de tourner en rond. Ça m'a pas du tout parlé. Pourtant, j'ai fait quelques... Rappelez-vous, je crois, le Red Alert numéro 2. J'avais joué à Genshin Impact. J'ai joué une trentaine d'heures.
Et t'avais kiffé.
Et j'avais plutôt apprécié. Et j'ai pas, en tout cas, très perso, j'ai pas eu ce sentiment de progression. Là où Monster Hunter, même si la mécanique elle est assez similaire, je trouve, t'as raison, tu fais les choses en boucle, j'ai pas réussi à avoir ce même sentiment.
Ouais, après alors dis-moi si t'es ok, mais c'est vrai qu'on peut se dire tout bêtement, tu vois, c'est un éditeur de free to play qui a pas su faire une transition vers le jeu console. Mais au final, est-ce que c'est pas plutôt ça le JRPG d'aujourd'hui et de demain en fait, et que les JRPG dont on se raccroche, c'est un peu le modèle passé, quoi.
C'est vrai. Mais oui, non, mais c'est possible, hein. Il y a encore des titres réfractaires, hein, qui sont un petit peu, du coup, à l'ancienne. Mais aujourd'hui, on est sur un modèle qui va plus tendre vers ça. T'as Genshin Impact, ils ont donné le là pour toute une industrie. Là où ce Grand Blue Fantasy Relink, voilà, je vous ai dit, il a été développé il y a plus de 8 ans. Genshin Impact n'existait pas.
Ouais.
Et je sais pas, moi, quelle était l'ambition du jeu à la base. Comment, en fait, il a été structuré. Et même si la première vidéo, elle ressemble énormément à ce qu'on voit aujourd'hui, quand tu regardes ce qui a été diffusé il y a 8 ans, ben je pense pas que c'était un Genshin Impact à l'époque. C'était peut-être quelque chose de classique. Et c'était intéressant parce que à l'époque, ils avaient le free to play mobile avec leur système de gacha, avec un système de jeu au tour par tour, hein, je rappelle, donc quelque chose qui était plutôt classique, mais avec un système de gacha pour enrôler tes héros. Et en fait, c'était presque qu'ils allaient à rebours en disant, ben on va faire un grand JRPG très ambitieux, très coûteux, plutôt classique. Et en fait, là, il y a les 8 ans, ça s'explique aussi, quoi. Ils ont dû, je pense, pivoter en disant, mais on va arrêter de faire ça, on va plutôt faire ça.
Ce qui peut expliquer aussi le changement de dev et d'avoir un retir. On peut imaginer qu'ils ont dit à Platinum, bon, les gars, on arrête le côté RPG, on va faire maintenant un jeu à la gacha, et Platinum a dit, mais c'est pas trop notre délire.
Et peut-être a raison en disant, bah, c'est pas notre savoir-faire. Ouais. Nous, on sait pas faire. On a vu, hein, des jeux qui sont pas réalisés par des spécialistes du game as a service, ce genre de choses, et qui vont dans le mur parce que c'est tout un savoir-faire qui est pour le coup assez récent, donc il y a pas beaucoup de gens qui ont une grande expérience.
Ouais. Et pour le coup, je trouve la méthode Genshin Impact plus intelligente, hein, dans mon sens, au sens où c'est le même jeu sur tous les supports et même sur console, ils sont pas dit on va travestir notre fonds de commerce pour aller plaire à d'autres gens. On a fait non, on fait la même chose parce qu'on sait que ça plaît. Et en fait, tu te retrouves avec cette expérience unifiée dont tu nous parlais. Exactement. Où tu peux faire ta partie sur différents supports, quoi.
Ouais.
J'ai l'impression que c'est peut-être plus intuitif et plus simple, quoi.
C'est plus logique et on revient presque au sujet de tout à l'heure avec Microsoft, c'est-à-dire que Genshin Impact, tu as cette unité de jeu, de save, de tout. Enfin, c'est vraiment la même expérience partout et en fait, c'est le contraire total de Grand Blue Fantasy qui ne tourne, alors là, c'est pas une vanne, je suis désolé, mais qui tourne pas sur Switch, tu vois, qui tourne pas sur Non, vraiment, il est magnifique, tu vois, c'est un jeu premium vendu j'imagine 70 ou 80 euros et en fait qui est en fait en vase clos, qui est en vase clos et qui a rebours sur tout, qui a rebours sur son système économique, mais qui dans son système de progression, c'est pour ça que je parlais de dissonance de façon continuelle.
Ouais, puis ils en font une espèce de suite de leur free to play de base, mais vu que t'as changé le système, est-ce que ce public là va faire la transition, c'est pas sûr. Et t'arrives sur la console où t'as un système JRPG qui est pas celui qui est attendu, et du coup est-ce que le public console va s'y retrouver aussi. J'ai l'impression qu'ils ont fait un peu tous les mauvais choix, quoi.
Au-delà du fait que l'univers ne te prend pas par la main. C'est-à-dire que t'es perdu en tout, en fait. Et t'es perdu en tout, et t'es aussi surpris par les attentes que tu as pu, en fait, toi, en fait, nourrir. Donc c'est...
Ouais, mais bon, qui sont aussi générés par la communication de l'éditeur, par les trailers qu'on te montre aussi.
Parce que là, et la tête qu'il a, il est sublime. Enfin, franchement,
je pense
le jeu...
personne s'attendait à ce que ce soit imaginé comme une espèce de suite ou spin-off à un jeu mobile que personne n'avait joué en Occident, quoi.
Ouais, c'est le spin-off le plus ambitieux, en tout cas, que j'ai jamais vu.
Parce ouais, que... mais c'est comme si, tu disais, tu parlais de One Piece, mais c'est comme si, ben en fait, le spin-off de One Piece, c'était un manga, quoi. Enfin, c'était pas le lieu, en fait. Parce que le truc principal, c'est le manga, quoi.
Ouais,
en fait.
C'est exactement ça. Bête d'exemple. Mais ne me parle pas de One Piece. Mais finalement, tu vois, j'en retire aujourd'hui One Piece Odyssey. Un petit amour et un bon souvenir. Parce que Grand Blue Fantasy, clairement, moi, à la fin, je savais, quand j'ai arrêté d'y jouer, une fois que j'avais terminé la quête principale et quelques heures sur les quêtes annexes, je me disais pas, c'est pas un bon jeu. C'est clairement, mais c'était pas un bon jeu pour moi. Et quand j'arrête pas de dire dissonance et tout, c'est parce que je sentais qu'il y avait de la friction sur, j'avais envie de l'aimer. Il y a des, le jeu est sublimissime et il y a des panoramas, j'ai jamais vu ça. J'étais là, je fais, mais c'est incroyable. Et donnez-moi presque ce JRPG que j'avais dans ma tête. Mais toujours pareil, le jeu, c'est pas ce qu'il est. Donc, on va pas le condamner.
Oui, mais après, bon, j'avoue, moi, le portrait que t'en fais me donne pas spécialement envie, quoi.
Donc, n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous avez l'occasion de tester ce Grand Blue, si vous en attendez. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que cette chronique vous a refroidi ou pas? N'hésitez pas à nous faire vos retours. Il est l'heure de l'interlude top 3, de se poser un petit peu pour un petit top 3 qui, cette semaine, alors c'est pas un top 3 de bourrin, ça c'était la semaine dernière, mais un top 3 qui s'intéresse à une série, une saga, ça on le fait de temps en temps, sympa aussi.
Ouais, top 3 simple.
Top 3 simple, qui s'intéresse cette semaine au top 3 des Tomb Raider. Il y a un remaster qui est sorti là, alors quelle journée? Le 14, c'était il y a deux jours, je crois. Je bluffe, je crois que c'était il y a deux jours. Voilà, remaster de 1, 2, 3. On risque de vous en reparler. Je pense que je vais vous en reparler dans quelques semaines. est-ce que tu as besoin d'expliquer ton top 3?
Top 3 des épisodes de Tomb Raider. Donc là, on voit large, quoi.
On voit large. Est-ce qu'on met les spin-offs, tout? Est-ce qu'il y a des spin-offs?
Il y a des spin-offs, mais j'en ai pas mis, moi.
Moi non plus. Allez.
Il y a des spin-offs pas dégueulasses. Hein.
Qui sont le Tomb Raider? Comment il s'appelle celui?
Le Go,
ouais. Ouais. Très, 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 très sympa. Allez, Go, je te laisse commencer.
Mon numéro 3, Shadow of the Tomb Raider. Donc c'est le troisième épisode, donc le dernier en date, hein, qui est sorti. Le troisième épisode de la dernière trilogie. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon préféré des trois, bizarrement. C'est pas celui qui est préféré en général, mais entre le premier qui a l'ambiance sur l'île perdue, le second dans la neige, ben moi, je préfère l'ambiance du 3. Donc, la forêt un peu tropicale, le côté temple Maya, tout ça, ça me parle un petit peu plus. Alors, c'est l'épisode qui était développé par Eidos Montréal, et pas par Crystal Dynamics, parce que les pauvres étaient sur Avengers. Mais c'est celui que je retiens le plus de la trilogie et c'est celui à date, hein, c'est le dernier épisode en date, quoi.
C'est vrai. Mais ça tombe bien parce que moi, mon numéro 3, c'est Rise of the Tomb Raider. Alors moi, j'adore la trilogie de reboot. Et effectivement, c'est la NES. J'aime bien, en fait, le 2 parce que comme tu le dis, c'est côté un petit peu neige, montagne, c'est la galère, et j'aime bien, en fait, j'aime bien ça, moi j'aime bien la neige. Et surtout, c'est que le reboot, je l'aime bien, mais il s'éloignait un peu trop de ce qu'était Tomb Raider, et dès le 2, et ça a été poursuivi dans le 3, c'est le retour des énigmes, le retour des choses un petit peu plus posées, même si Rise et Shadow sont restent assez linéaires. Oui. C'est à partir du Rise où il y a eu un petit peu la tension qui est descendue.
Ouais, bah ils ont répondu un peu aux critiques des joueurs, ils ont rajouté un petit peu plus de côté Tomb Raider, comme tu l'as dit, que c'est espèce de tombeau.
Exactement.
Que tu peux explorer.
Donc, bah, comme toi, on aime bien la trilogie reboot. Donc, le numéro 2 et numéro 3 pour cette troisième place. Je te laisse enchaîner avec ton top 2.
Mon top 2, c'est Tomb Raider Anniversary. C'est tout bêtement le remake du premier épisode, alors qu'il était sorti, ça fait quand même quelques temps, hein, je sais plus exactement.
Ouais.
Mais en fait, ben voilà, Tomb Raider 1, c'est un peu l'épisode de base qui est super réussi et tout. Mais là, t'as la version refaite. C'est un vrai bon remake. Je trouve qu'on le cite pas assez dans les exemples de vrais bons remakes.
Écoute, je t'accompagne, c'est mon top 2.
Eh ben, écoute, c'est un super jeu et qui, va apporter ce soupçon de modernité au premier épisode qui a quand même bien vieilli. Je pense qu'on en reparlera.
Ouais, on en parlera. À l'occasion. Mais est-ce qu'il a mal vieilli? Je sais pas. Il a bien vieilli.
C'est moi qui ai mal vieilli, je pense.
Ouais, ouais, je sais pas. Oui, mon top 2, c'est aussi Anniversary. Je l'adore. Remake très propre du jeu culte. Il y a eu quelques retouches, hein. Un ennemi en skate, je crois qu'il n'est plus là. Alors que.
Un ennemi en skate.
Ouais, ouais.
Aïe, aïe.
Ils avaient un petit peu retouché 2-3 trucs, mais très très bon souvenir, très très bon remake. Donc c'est mon top 2 et on peut directement aller à la première place, du coup.
Alors moi, mon top 1, ça a toujours été Tomb Raider Underworld. Voilà. Donc ça a été.
Oh, Underdog un peu.
Ouais, mais c'est, voilà, c'est la première trilogie, on va dire, de Crystal Dynamics. Ouais, voilà, qui ont récupéré le bébé après les 6 premiers épisodes de Core Design. Et donc on a eu le Legend qui était leur cale au décès. On a eu l'Anniversary qui leur a permis de s'étouffer un petit peu. Underworld, pour moi, c'est le plus exotique. C'est celui qui a, voilà, les god statues gigantesques, les macro puzzles qui.
Ouais, ça c'est super.
Alors pour le coup, qui allait s'inspirer d'Uncharted dans le côté puzzle et tout, et ambition, mais enfin ce n'est que justice, quoi, c'est la boucle qui se boucle, quoi. Donc enfin moi vraiment je l'ai adoré, cet épisode là j'ai même fait les DLC à l'époque et tout, alors bon, qui sont pas incroyables, mais voilà, moi j'ai ce niveau, alors je suis en Birmanie ou quoi, avec une statue gigantesque à quatre bras, c'est pour moi c'est le proto du Tomb Raider que je kiffe.
Tomb Raider, c'est ça, quoi.
Ouais.
Eh ben moi, Tomb Raider, c'est Tomb Raider 2. En fait, mon numéro 1,
puriste,
c'est Tomb Raider 2. Or, puriste, je sais pas, mais bon, ça, je vous en parlerai plus lors de la chronique, mais moi, j'ai jamais terminé Tomb Raider 1. Et donc, mon vrai premier Tomb Raider que j'ai fait sur ma PlayStation, c'est le 2. Et j'ai en mémoire, voilà, un petit peu le dépaysement de... Alors, c'est marrant de dire dépaysement parce qu'elle va à Venise. Tu vois, tu te retrouves dans des situations... plus urbaine,
ouais.
Le bateau, alors que le premier c'était vraiment voilà, la Grèce, l'Égypte, le Pérou, c'était vraiment l'aventure, la vraie. Là, on revient un petit peu les pieds sur terre, en ville, avec des personnages humains, alors que dans le premier, il y en a quasiment pas, c'est des boss, ou c'est un personnage que tu poursuis. Moi, j'ai un souvenir un petit peu cette bascule, Tomb Raider 2, c'est pour ça que je l'ai en mémoire, je l'adore comme mon préféré, quoi. Toi, le Tomb Raider 2, il te parle...
Bah écoute, moi j'avais joué sur PC au clavier, donc je pense jamais fini le premier niveau.
Ça, moi c'est Tomb Raider 1 que j'ai fait chez un pote uniquement au clavier, et c'est pour ça que...
Après, bon, voilà, c'est vrai que c'était un peu avant le début des embrouilles, on sait qu'à partir de Tomb Raider 3 ça a été assez compliqué avec le jeu, peut-être qu'il devenait beaucoup trop dur, beaucoup trop buggé.
Même si moi en mention, le 4, Destination Finale, que j'adore vraiment tout particulièrement. Bon, un top classique ou...
Oui, mais en fait, voilà, je pense qu'on aura plus l'occasion de s'étendre sur Tomb Raider prochainement, quoi, de parler de la saga en entier, d'un peu de ses différentes époques.
Je pense, ouais, dans 15 jours, c'est la semaine prochaine. Restez jusqu'à la fin de l'émission, on va vous dire ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, potentiellement, dans 15 jours, moi, je vous parle de Tomb Raider. Voilà pour ce top 3. N'hésitez pas à nous dire, ben, vous, quels sont vos Tomb Raider préférés, et de continuer de nous balancer vos idées de top 3. Ça pleut les Discord et tout. Merci beaucoup encore. Nico, c'est à toi. Est-ce que tu veux nous parler de Dissonance Ludorative? Je pense, mais tu as surtout nous parler de Banishers.
Banishers, ouais, bah déjà le nouveau Dontnod, un troisième Dontnod en quelques mois. Hein. On a eu Harmony the Fall of Reverie il y a quelques temps, et Jusant qu'on a beaucoup aimé.
Harmony. Il est passé en l'été, un petit peu sous les radars.
Un petit peu inaperçu, y compris sous les nôtres, hein, même si moi c'est un jeu que j'ai quand même envie de faire, parce que ça a l'air intéressant, quoi. Donc Banishers qui est sorti la veille de la Saint-Valentin, alors apparemment c'est pas volontaire, mais... pour un jeu qui parle d'amour, je trouve ça plutôt rigolo.
Ouais.
Parce que Dontnod, souvent, bah, ils aiment bien parler de sentiments amoureux dans leur jeu. Alors déjà, pour commencer, hein, j'ai suffisamment râlé contre les jeux qui avaient des prologues complètement éclatés. Hein, donc on pense à Mirage, on pense à Avatar. Bah, que quand un prologue est réussi, il faut le dire. Et ici, bah, wow, quelle première heure, je trouve assez incroyable. Il y a un véritable effort de mise en scène qui est fait, notamment dans les dialogues. Hein. On a des personnages qui bougent, qui s'assoient sur leur chaise. Enfin, des animations qu'on a plutôt l'habitude de voir dans Cyberpunk, tu vois, où c'est vraiment, tu te dis, c'est pas juste des discussions un peu où tout le monde est rigide. Et on a cet éclairage un peu qui simule l'effet à la bougie, avec une image super contrastée, une ambiance de ouf. Donc on est en Nouvelle-Angleterre, hein, au XVIIe siècle, donc l'ambiance un petit peu comme ça, vraiment un petit peu effrayante presque.
Ouais.
Et donc cette Nouvelle-Angleterre, avec tout ce que ça charrie comme idée au terme de puritanisme, de chasse aux sorcières, donc le jeu va vraiment véhiculer tout ce truc-là. Donc on suit un petit peu les colons qui sont fraîchement installés sur le Nouveau Monde, hein, les États-Unis, quoi. Et donc on va tourner autour de cette idée de chasse aux fantômes et tout, donc vraiment un petit peu effrayante, quoi. Et donc on a ce prologue qui vient poser les enjeux, et moi je te dis, putain mec, pure ambiance Banisher, vas-y, faut que t'essayes.
C'est clair.
Et t'es aussi d'accord, quoi, sur ce prologue?
Ouais, alors moi j'ai fait que le prologue, j'ai joué je pense une petite demi-heure de plus que le prologue, sur tes conseils, et il y a un mot qu'on utilise beaucoup, c'est masterclass, et qui est devenu un peu galvaudé.
C'est peu de le dire.
Et là, pour le coup, je trouve que c'est une vraie masterclass. C'est... ce qu'il faut faire dans un prologue ou un onboarding, c'est vraiment te prendre la main, te présenter les enjeux, ce n'est pas du tout le cas de Grand Blue Fantasy Relink, qui te pose une ambiance qui est à un niveau de maîtrise incroyable et qui va présenter l'ambition du jeu, et tu vas y revenir, mais qui est tellement ambitieuse d'originalité. Est-ce qu'on est dans un jeu d'horreur? Est-ce qu'on est dans un jeu où il va y avoir du fight assez ambitieux avec des combats de boss qui sont un peu difficiles?
Un cadre historique assez nouveau aussi.
Hyper original. Des personnages forts et charismatiques dont tu comprends tout de suite le rôle et les enjeux. Moi, j'ai pété un câble sur ce prologue. Vraiment.
Chapeau. Alors, autant être clair, hein, le reste n'aura pas droit à un tel niveau de polish. Alors, pas tant que le reste est mal fait, hein, mais... on va dire que ce genre de finition, c'est vraiment pour les grosses cinématiques, et le reste du jeu sera un petit peu plus classique avec, voilà, ces discussions un peu champ contre champ, avec les persos un peu figés comme on peut le voir d'habituellement, parce que bon, on rappelle, Dontnod, c'est pas Sony Santa Monica, c'est un studio qui certes a bien grandi et qui a des moyens aujourd'hui, mais qui est plutôt sur le côté, on va dire, double A, à la lisière du triple A, on va y revenir là-dessus.
Oui.
Donc là-dessus, il faut bien se mettre en tête les enjeux, tout ça, quoi. Donc ce début d'aventure, finalement, on a cette espèce de chaud-froid, et les premières heures, je trouve, c'est un petit peu compliqué avec... les 4-5 premières heures, tu vas attendre un petit peu que le jeu s'emballe. C'est ton arrivée dans un premier village qui va te donner un petit peu une variété d'objectifs, que les objectifs vont s'ouvrir, que les quêtes vont s'ouvrir. Et il va falloir attendre, voilà, ce moment-là avec l'obtention d'un fusil et d'avoir le système de combat qui s'étoffe pour prendre un petit peu plus de plaisir. Parce que le début, le système de combat est ultra rigide, ultra simple, hein, t'as que juste ton épée et machin. Donc voilà, comme pour Avatar, faut être un peu patient avec les jeux, je trouve. C'est vrai qu'on a tendance des fois à perdre cette patience dans notre époque.
Ouais.
Et on voit des jeux qui se révèlent peut-être sur le tard. Alors, certains vont me dire que 4-5 heures, c'est trop long et que ça justifie pas d'attendre, et je peux comprendre. Hein. Mais voilà, pour Avatar comme pour Banisher, je vous conseille peut-être de passer cette première période avant de vous faire un avis, quoi.
En tout cas... contrairement à Avatar, qui lui avait un prologue, je trouve, assez pénible, là, ils ont réussi leur pari de t'emporter.
Ouais.
De te dire,
t'es déjà un petit peu happé, donc voilà. Ça passera un petit peu mieux, quoi. Donc, on reprend quand même au début, hein, pour expliquer un petit peu. Banisher, c'est un action RPG cinématographique, à la troisième personne.
Mm-hmm.
Donc, l'inspiration la plus marquée, là, on situe carrément au niveau du reboot de God of War, hein. Donc, avec un mix, avec, des combats qui sont assez présents, quand même. Et une exploration qui est assez linéaire, mais qui a toujours, voilà, ces petits, chemins de traverse pour avoir quelques secrets planqués à droite à gauche. Donc tu vas te balader dans un monde qui est un petit peu semi-ouvert à la FF16, hein. Je sais pas si tu vois ce côté un petit peu semi-ouvert. Et donc tu vas incarner deux personnages, donc deux exorcistes, hein, les fameux banisseurs, les bannisseurs en français, quoi.
Mm-hmm.
Et tu vas, voilà, un petit peu devoir faire des enquêtes pour à chaque fois avoir des situations d'exorcisme et pouvoir un petit peu tirer tout ce qui se passe là-dessus, quoi. Donc chaque enquête, chaque exorcisme, ben là-dessus, j'ai l'impression, enfin si je vais parier, j'imagine que leur inspiration, c'est vraiment les quêtes annexes de The Witcher 3.
Okay.
Donc d'avoir des situations toujours nuancées avec des persos qui se situent plutôt en zone de gris.
Okay.
Et plus t'avances dans ton enquête, plus tu vas avoir des révélations successives et qui vont venir un petit peu changer la perception que t'avais des événements, quoi. Et là-dessus, ben je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal, elles sont plutôt intéressantes. Après, pas forcément toutes égales là-dessus. Mais là où on voit ça qui est vendu comme tu vois un peu une caractéristique du jeu, hein, d'avoir un jeu avec des exorcismes, finalement on se retrouve avec ce qu'on peut avoir dans les jeux classiques, des enquêtes habituelles, tu vois. Donc c'est juste aller au point d'intérêt, et le personnage va faire un petit peu l'enquête tout seul et va relier les points tout seul.
Okay.
Donc c'est un peu
automatique.
C'est un petit peu un faux twist, en fait, de te dire je vais avoir un exorcisme, ça va être quelque chose de différent, quelque chose d'un petit peu nouveau. Et finalement c'est des situations d'enquête comme t'as un petit peu dans tous les jeux, quoi.
Désolé, moi je vais revenir souvent au prologue, hein, parce que c'est la seule truc que je, c'est le seul truc que j'ai fait. Ouais. Mais dans ce prologue, l'une des choses que j'avais trouvé assez grisante, c'est que tu as un exorcisme, enfin un bannissement là, et en fait, du coup, tu as devant toi plusieurs formules et tu te dis ah, je vais devoir choisir la bonne. Donc dans le prologue, on t'accompagne, on te dit bah c'est celle-là. Et en fait, moi, je me suis tout de suite projeté en me disant ah, ça va être un enjeu important de choisir à chaque fois le bon bannissement, la bonne formule en fonction de la situation. Tu vois, quelque chose qui va un peu te donner un petit peu du choix.
Ça, et c'est clairement sous-exploité. C'est même dommage, en fait. C'est que déjà, ça va se raréfier de plus en plus.
Okay.
Et à chaque fois, c'est que t'as une mot-clé qui va te renseigner sur le type de cercle un peu d'invocation à faire. D'accord. Et donc t'as jamais trop de challenge là-dessus, et si tu te loupes, bah faut juste faire le bon, en fait, quoi. Donc là-dessus aussi, ça fait partie, il y a certains gimmicks qui sont séduisants de prime abord, mais qui vont se révéler soit bah finalement un peu classique sous la surcouche de peinture, ou alors un petit peu inutile, en fait. Et on va voir, c'est ce que je peux reprocher au jeu, même si le jeu a quand même de bonne qualité, quoi. Donc on incarne ces deux personnages avec donc le héros Red et Antea, la personne ta compagne, donc ils sont des bannisseurs. Et Antea, donc dès le début du jeu, évidemment, bah, va mourir, en fait, et donc va t'accompagner sous sa forme fantomatique pendant le reste du jeu. Donc tu vas vraiment avoir ces deux personnages qui sont toujours réunis, et que tu incarnes vraiment le duo, quoi. Et donc avec le personnage principal, tu vas pouvoir te battre avec ton épée et tout classique. Et avec un T1, en switchant sur un bouton, bah, tu pourras invoquer sa forme fantomatique et avoir accès à d'autres types de mouvements, quoi.
D'accord.
Et un T1, justement, ce personnage-là, quand tu switches sur elle, t'auras cette fameuse vue détective, un peu comme okay. On voit avec les autres jeux habituels, tu vois, avec les éléments en surbrillance et tout. Ce qui est cool, c'est que pour le coup, la vue, c'est pas, c'est un truc modifié où tu vas voir que dalle, juste des éléments en surbrillance qui sera pas esthétique, c'est quand même, t'as une DA qui est modifiée, mais ça rend le jeu joli, donc ça, okay. Ça t'incite aussi à switcher sur elle. C'est pas juste le truc que tu as utilisé.
Que la vision d'aigle.
Voilà. Ça reste quand même agréable là-dessus, quoi. Donc, Antea, elle va avoir des capacités qui vont se débloquer au fur et à mesure, qui seront aussi utiles dans l'exploration que dans les combats. Donc, à chaque fois, t'auras une compétence qui va débloquer un arbre de compétences liées.
Okay.
Et donc, t'as quand même, à chaque fois, ce rôle qui va débloquer un truc dans le combat et qui va pouvoir te rajouter quelque chose d'intéressant. Et dans l'exploration aussi. Donc, c'est là où je disais que le système de combat met du temps un petit peu à démarrer.
Okay,
et dès que tu débloques ces compétences, bah, tu vas pouvoir avoir, je sais pas, bah, des combos où tu donnes 3 coups d'épée avec le personnage masculin, tu switches sur Antea pour faire un autre combo avec de la magie derrière. Donc, ça va rajouter un petit peu cette diversité et rendre le truc beaucoup plus intéressant, quoi. Okay. Sachant qu'aussi que sur les combats, le personnage masculin sera lui plus fort contre les fantômes, on va dire, là où Antea, elle, ça sera plutôt contre les êtres un petit peu tangibles, tu vois, quand un fantôme va posséder un cadavre.
D'accord.
Donc tu vas devoir switcher aussi là-dessus sur la nature de ton ennemi, et chacun sera un petit peu plus spécialisé dans l'un ou dans l'autre, quoi.
C'est déjà mieux que FF16, du coup. C'est des attaques élémentaires, quoi.
Donc ouais, ces combats, ils sont quand même plutôt sympas, mais tu vas vite te rendre compte que tu tournes un petit peu en rond au final, et ça en a pas la complexité des combats de God of War ou la richesse là-dessus, on va pas se mentir, quoi. Il y aura quand même quelques boss, je trouve, un petit peu à la Bloodborne, je t'en ai parlé, qui vont pouvoir réveiller un petit peu certains joueurs là-dessus, même si les combats sont pas forcément plus intéressants.
Après, le design de ouf, hein, j'ai vu les photos.
Mais voilà, la DA est quand même ouf, c'est perso à la Bloodborne, c'est vraiment cool. Il y en a même un PNJ dans le jeu, qui est un sosie de Jean-Luc Mélenchon, donc je dis, ça peut peut-être intéresser les gens, quoi.
Trouvez-le, faut le trouver.
Il est assez vers le début du jeu, vous allez voir, quoi. En tout cas, voilà, ce qui fait le cœur de l'expérience, ça, c'est vraiment le couple de héros, hein, c'est les interactions qu'ils ont. C'est pour moi la grande réussite du jeu. Donc, on a les deux persos qui sont très bien caractérisés, avec notamment le mec Red qui a un accent écossais à couper au couteau. Enfin, moi, je vous conseille de jouer en VO là-dessus. Ça leur rend davantage justice. Et je trouve, comme on parlait de direction artistique, leur design aussi, ils sont super classe, quoi.
Ouais.
C'est vraiment cool. Et pour le coup, ce qui est assez rare, c'est que leur interaction sonne naturelle, en fait. C'est, tu sens que c'est un couple qui ont donc leur petite routine, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas dites, des secrets qui vont se révéler au fur et à mesure. Mais ça sonne toujours vraiment bien écrit et bien naturel là-dessus.
Ok.
Et c'est à même cette relation qui va s'épanouir à travers des petits détails dans les animations, dans des scénettes qui vont renforcer la crédibilité du couple. Je pense que t'as peut-être dû le voir, mais t'as les fameuses séquences de feu de camp où tu peux te reposer, comme oui. Dans son Dark Souls.
J'en ai eu un.
Et là, à chaque fois, là, tu vas avoir une séquence où tu vas avoir le héros Red masculin qui s'endort, et tu vois Antea qui va s'allonger contre lui, mais elle, comme c'est un fantôme, en fait, elle dort pas, et donc tu vas voir en mode accéléré qu'elle, la zone, elle se fait chier pendant la nuit, pendant que lui est en train de pioncer. Et je trouve que c'est très malin. Alors, bon, certes, la séquence se répète à chaque fois, il n'y a pas de nuance, mais ça montre que ça y est, les deux héros déjà appartiennent plus au même monde, en fait.
Mm-hmm.
Et justement, tout l'enjeu du scénario, on va en parler, ça va être de décider un petit peu le destin de ce couple, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est vrai que le reste des personnages du casting du jeu était un petit peu en deçà, et en fait, je pense que c'est normal parce que le couple va éclipser tout le reste des persos en termes design, en termes d'écriture, parce que c'est le but, c'est le propos du jeu, quoi.
Oui.
Donc, tous les autres persos seront pas aussi intéressants, mais en final, on s'en fout un petit peu, quoi. Donc c'est pour ce couple et pour cette histoire en fait que j'ai eu envie d'aller au bout de l'aventure et de connaître un petit peu le fin mot de l'histoire quoi. Et c'est marrant parce qu'on a ces questions de duo de personnages, je trouve qu'il est devenu vraiment assez prépondérant dans le jeu vidéo avec God of War et Plague Tale. Alors souvent c'est vrai qu'on dit que c'est un petit peu Naughty Dog qui a popularisé ça, d'avoir ce second personnage qui permet d'avoir du dialogue en fait avec ton héros, de pas juste avoir le héros solitaire. Mais c'est, dans les Naughty Dog c'était à vue de scénarisation, ça servait juste à entretenir un dialogue quoi. Dans God of War c'était un petit peu la même chose, mais t'avais des séquences où tu pouvais jouer le deuxième perso dans God of War Ragnarok. Et dans Plague Tale, t'avais une différence, c'est que dans les séquences de jeu, en fait, quand les deux persos bah, se tiennent la main, finalement, bah, les interactions elles valent pour les deux joueurs. C'est-à-dire que t'appuies sur un bouton, tu vas monter une corniche, c'est les deux qui montent la corniche. Tu vas avoir un bouton pour se baisser, les deux se baissent.
Okay.
Et par exemple, voilà, les deux sont au même niveau si tu te fais repérer. Quoi. C'est pas juste l'un qui est différencié de l'autre. Si l'ennemi t'aperçoit, c'est le duo en fait qui va être en danger là-dessus. Quoi. Dans Banisher, il y a vraiment une nuance, c'est que dans les phases de jeu donc et de combat, tu alternes les deux personnages. Donc tu vas pouvoir utiliser deux comme si c'était deux persos séparés en fait. Et dans l'exploration également, donc t'as ton perso habituel et tu peux changer pour par exemple utiliser les compétences d'Antea quoi. Et donc notamment la vision de détective comme je l'ai dit quoi. Mais là où le duo en fait et c'est là où la dissonance va venir jouer, c'est au niveau narratif en fait, dans les choix et dans les décisions qu'on va te demander quoi. Donc on l'a dit dans Dontnod, ça utilise souvent la thématique de l'amour dans leur jeu et aussi le dilemme moral, c'est quelque chose qui revient énormément. Et oui. En fait, des Remember Me, c'était question de dilemme moral là-dessus. Life is Strange ou Vampire, c'est aussi des jeux qui jouaient là-dessus quoi.
Oui.
Et donc finalement dans Banisher, dès le prologue, dont je l'ai dit, le perso d'Antea est tué et elle va revenir sur le fantôme de Red. Et tout l'enjeu, ça sera de prendre la décision, est-ce que tu vas envoyer ce fantôme-là hors du monde matériel un petit peu, en gros tu l'exorcises comme tu le fais habituellement,
oui.
Et donc lui donner la paix pour qu'elle monte dans peut-être en paradis ou quoi, ou bien de la ressusciter parce qu'on t'indique que c'est possible en fait. Et donc tout le choix du jeu que tu vas faire, ça va être de choisir ce que tu veux, la ressusciter ou bien l'envoyer au paradis quoi. Et c'est là où je trouve que la dissonance intervient, c'est que ton choix, tu vas le faire toi en tant que joueur, mais ça va être accepté par le couple, mais sans qu'il y ait de débat entre eux. En fait, c'est ta décision en tant qu'individu, en tant que joueur, va faire foi pour le couple de personnages. Alors que ça aurait pu être logique de s'imaginer qu'il y ait un débat entre eux, qu'ils soient pas d'accord. Tu vois, okay. Genre Antea qui est devenu un fantôme et qui sait qu'un fantôme n'a pas à exister sur Terre, bah, militer pour être envoyé au paradis, on va dire.
Ouais.
Là où le perso masculin aurait pu dire « Mais non, mais moi, t'es morte, mais je veux te ressusciter », et qu'il y ait un débat entre eux et que ça crée une friction, tu vois, que ça soit un moteur de narration là-dessus. Et en fait, c'est pas le cas. Ta décision en tant que joueur fait foi et les deux disent « Ok, on s'est mis d'accord, on va faire ça, en fait. Mm. » Et ça, je trouve ça plutôt dommage.
Et c'est d'autant plus étonnant qu'au début du jeu, il y a une sorte de promesse qui est faite entre les deux, où en fait chacun va donner sa vision du bannissement. Ils sont pas forcément d'accord,
ouais.
Et ça rentre en contradiction.
Ouais. Et surtout que quand Antea donc devient un fantôme, elle t'explique qu'elle a une espèce de fin de une satiété qui n'intervient jamais parce oui. que t'as besoin d'énergie. C'est pour ça que les fantômes sont à bannir, parce qu'ils absorbent un peu l'énergie des gens qu'ils hantent. Et du coup, elle a une espèce de fin qui la ronge. Et en fait, le jeu ne joue jamais là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai pris la décision dès le début que j'allais envoyer son fantôme, voilà, vers la paix, en fait, pas la ressusciter. Parce que la ressusciter impliquerait de tuer des innocents et de voler leur énergie pour pouvoir la ressusciter. Et en fait, jamais le jeu va m'a questionné mon choix là-dessus. Donc, tu fais ton choix au début. Et j'aurais aimé, tu vois, que le personnage d'Antea accepte ce choix, mais dise, ah là là, ça, j'ai faim, j'ai cette faim qui me ronge et tout, et en souffre, en fait, de tout ce choix. Et que ça puisse générer chez soi, des questionnements, et tu dis est-ce que je fais bien, est-ce que ma décision va pas la faire souffrir, est-ce que, et même que Antea devienne un peu hostile et qu'elle dise, tu vois, qu'elle essaie de faire changer d'avis le personnage pour dire bah finalement non, ressuscite-moi, j'ai besoin de ça.
Est-ce que ça modifie son rôle en combat?
Non, en fait, il y a rien qui change. Et donc dès le début, en fait, tu prends ta décision et il y a rien dans le jeu qui va venir faire changer ça, quoi.
Est-ce qu'elle aurait pu t'attaquer?
Moi, j'aurais aimé justement qu'il y ait pu savoir ce perso qui va venir un peu confronter ta décision et essayer de te faire changer d'avis pour créer une friction. Et en fait, là, je me suis retrouvé dès le début du jeu avec ma décision. Et en fait, ça sert à rien de te donner un choix s'il n'est jamais questionné, en fait, juste à la fin, quoi. C'est
d'accord.
Que dès le début, j'étais fixé là-dessus. Et en fait, ça n'a pas eu d'impact sur le reste, quoi. Et finalement, même, tu vois, ces différents cas de hantis que tu vas trouver, donc Tana qui sont obligatoires pour le scénario, mais c'est aussi beaucoup de quêtes annexes, où tu vas avoir ces cas d'enquête dont je parlais.
Oui.
Et à chaque fois, tu vas prendre des histoires un petit peu sordides et on te demandera toujours de trancher à la fin sur justement est-ce que tu dois tuer la personne humaine pour lui voler son essence ou est-ce que tu envoies le fantôme un peu
donc fort. Tu le tues pour récupérer son essence et potentiellement ressusciter.
Pour ressusciter en TA ou alors tu envoies le fantôme un petit peu tu en l'exorcises fait. Voilà et ça bah ça c'est pour aller dans le sens de ta décision de faire pareil pour en TA.
D'accord.
Et en fait ces choix, ces histoires sont intéressantes et comme j'ai dit, c'est en zone de gris en fait. Mais dès le début, étant donné que ce choix va être conditionné par celui que tu as fait, tu vas jamais aborder ces séquences-là par le biais de ton prisme critique en fait. Tu vas juste te dire, ben non, mais moi je sais que je pris cette décision concernant un TA, donc je vais prendre pour ce cas-là la décision qui va dans ce sens-là.
Okay. Ça a pas de sens de louvoyer d'une décision à une autre, de dire bah j'en ressuscite un peu, je prends l'âme de certains.
Pas tellement parce que
le jeu il te renvoie des informations pour te dire t'es sur cette voie ou t'es sur cette voie.
Non, t'as pas de compteur ou quoi qui te dirait voilà t'as tué genre 3 mecs, il t'en faut 4 de plus pour pouvoir la ressusciter.
Ouais,
ou ce genre
c'est
de
un
chose.
Truc là tu parlerais d'une jauge par exemple extra-diégétique, mais est-ce que dans la diégèse il y a des éléments dans le jeu qui te font écho à ton choix et en fait qui te dit ah mais ça arrive parce que en fait je suis en train de pomper l'âme de tout le monde. Ou est-ce que ça arrive parce que justement là, je suis en train d'envoyer tout le monde au pseudo-paradis?
Non, tu auras des choix que tu vas faire qui vont avoir un impact, mais ça sera plus j'ai décidé de révéler la vérité sur le dirigeant de ce village, donc voilà, ce dirigeant n'est plus exclu du village, donc le village va partir en couille derrière et tout, mais jamais lié à ton choix prépondérant en fait et à ton histoire de résurrection ou d'exorcisme quoi. Okay. Donc là-dessus je trouve ça dommage, d'autant que comme j'ai dit, vu que c'est les enquêtes sont souvent des zones grises. Ben en fait les deux options se valent quelque part, tu vois. Donc y a rien qui va venir remettre en cause ce que toi t'as décidé en amont quoi. Donc au final on se retrouve un petit peu comme dans un BioShock avec un choix qui est assez binaire. Et pour le coup, t'as droit à ta fin avec ton petit épilogue de 30 secondes qui va venir juste compléter ton choix avec cette frustration parce que tu sais qu'un studio peut pas créer là je crois qu'il y a 5 ou 6 fins et 5 ou 6 fins avec les mêmes moyens et avec des séquences grandiloquentes. Et donc tu te retrouves avec ce choix binaire qui est juste matérialisé à la fin par une petite scénette expédiée un petit peu vite fait. Okay. Et je trouve qu'il crée un petit peu de frustration là-dessus quoi.
Oui, t'as pas une grande fin à la mesure de peut-être de l'aventure qui est longue. Hein, ouais. En plus, donc t'as envie de peut-être de finir ça sur une bonne note.
Quoi. Ouais. Et c'est vrai que bon, moi perso, je suis pas tellement client des jeux à choix. Et dans le sens où je refais pas mes jeux en général. Et donc, c'est vrai que là, j'aurais pu partir pour un second run pour exploiter l'autre opportunité. Mais moi, en tant que joueur, je ne vois pas trop l'intérêt là-dessus, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que je suis plutôt client de la méthode de Quantic Dream, par exemple, je trouve qu'il est plus fluide en mon sens. C'est-à-dire que ton choix, il n'est pas posé comme un élément final qui va être prend droite ou gauche, en fait. Ça sera des micro-choix d'un événement, d'une situation qui vont orienter un peu de manière
illusoire
le truc. Mais ça va être plus, voilà. Un peu des micro choix sur du micro management petit à petit en fait qui vont t'amener sur une voie A, B ou C. C'est pas juste t'as deux choix dès le début, tu sais, il faut aller forcément dans une direction ou dans l'autre quoi.
Est-ce que là on n'est pas aussi face à une illusion, parce que si on a un choix A et B, on va dire noir et blanc, et t'as dit c'est pas le cas en fait, c'est deux choix gris. Finalement en fait à terme c'est la même chose, donc aussi peut-être un écran de fumée tout ça pour faire croire que
ouais, mais c'est toujours le risque avec les jeux à choix là-dessus. C'est vrai que c'est pas forcément moi des jeux que, enfin t'as toujours ce côté, t'en ressors toujours avec, comment on dit, soit une dissonance soit une frustration. Et j'ai pas joué à Baldur's Gate 3, mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de jeux vidéo qui rendent ça parfaitement intéressant quoi.
Baldur's Gate 3, pour avoir fait une dizaine d'heures, c'est que t'as une vraie satisfaction et gratification parce que le jeu te répond en fait. C'est que tu fais des choix et ça a des conséquences sur le monde. Tout à l'heure tu parlais de BioShock, mais le terme dissonance ludonarratif est né avec BioShock d'un post de blog américain où en fait il expliquait que quel que soit le choix que tu fais avec les petites filles, le jeu ne te répond pas parce que en fait tu es forcément en opposition à l'ordre établi, alors que l'un des deux choix, sauver les petites filles ou les sacrifier, l'un des deux choix va normalement dans le sens du méchant. Et en gros, le jeu va quand même, BioShock, te répondre dans le sens où si tu choisis de sauver les petites filles, t'as pas un bénéfice immédiat. Ouais. Tu vas galérer parce que tu récupères pas d'Adam, donc tu peux pas booster tes capacités. Mais à terme, tu remarques que tous les, 3 ou 4 petites filles sauvées, elle va venir te faire un cadeau qui est en fait plus fructueux, plus intéressant, que si tu les avais sacrifiées.
C'est toujours la balance entre le bénéfice immédiat ou un bénéfice un peu plus lointain qui sera supérieur, quoi.
Et ça, dans Manishers, tu l'as pas. Tu t'as pas quelque chose qui te dit ce choix-là, ce jeu me répond de telle ou telle manière. C'est ça, moi, je trouve, en tout cas, de ce que tu m'expliques, qui est frustrant.
Ouais, bah écoute, je suis d'accord là-dessus. Et c'est vrai que, j'en parlais à la sortie du jeu, hein. Pour moi, les jeux Dontnod, ils ont vraiment deux caractéristiques majeures. D'abord, c'est des jeux qui ont quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Et là, je trouve que c'est le cas. Hein.
Oui.
Or, ça rentrait dans les détails, mais t'as le jeu qui déploie vraiment un propos féministe contre l'obscurantisme, contre l'individualisme aussi de la société. Et il y a vraiment de quoi faire là-dessus, sans même parler, tu vois, de l'intérêt qu'on peut avoir pour l'histoire d'amour entre les deux personnages, quoi. Et le deuxième versant des jeux d'Antnode, c'était la grande versatilité du studio qui se faisait une force à chaque fois d'adapter des genres un petit peu préexistants et de les twister un petit peu à sa sauce.
Ouais.
Et là, je trouve que c'est pas forcément le cas. Et c'était déjà pas le cas d'un Vampire, comme je l'avais signalé à l'époque. Et là, on sait le nouveau jeu de la team Vampire. Parce que malgré ses originalités, comme j'ai dit, dans Banishers, finalement, ça reste un amalgame d'un jeu d'action-aventure narratif à la PlayStation, je veux dire, tu vois, un peu ce qu'on voit maintenant. Et toutes ces originalités, ça reste quelque part un petit peu, voilà, un vernis qu'on va te mettre, qu'on va te faire des promesses qui forcément sont pas tellement abouties derrière. Alors, pourquoi pas, tu vois, aller braconner sur les terres de PlayStation, hein, y a pas de souci là-dessus, moi, c'est des jeux que j'apprécie. Mais Banisher, c'est comme Plague Tale 2, c'est un jeu qui a la lisière du AAA, AA, tu sais pas forcément. Et paradoxalement, alors que ces jeux-là, ils gagnent en complexité et en qualité, hein, c'est que tu vois Banisher, hein, que visuellement, il est magnifique et tout, plus ils gagnent dans cette complexité et plus on devient exigeant vis-à-vis d'eux, en fait.
Exactement.
Et là, chaque détail qui sera peut-être un petit peu négligé, il va sauter d'autant plus aux yeux que sur un double A peut-être moins ambitieux. Donc, ça crée là aussi un espèce de paradoxe bizarre, quoi. Et de par son scope et dans son budget, Banishers, il ne peut pas s'empêcher une certaine répétitivité, tu vois, avec de son action, de ses PNJ qui sont pas forcément tous ouf, ou le manque de diversité du bestiaire, quoi. Et idem pour les combats, je l'ai dit. Au bout d'un moment, ils deviennent plutôt sympas et intéressants, mais tu tournes vite en rond et ça restera toujours un petit peu raide, ça manquera toujours un petit peu de feedback, quoi. Et pareil, il peut pas aussi s'empêcher d'étirer artificiellement son aventure avec, j'ai dit, ce démarrage pas ouf. Et puis, cette fin du jeu aussi où on te fait un petit peu revisiter la map d'une manière un peu bizarre avec une side quest qui intervient sur un élément qu'on t'avait pas assez vendu en amont pour que ce soit intéressant à jouer derrière. Donc, comme si, tu vois, il s'était imposé d'avoir un jeu qui faisait au moins 20-25 heures. Moi, j'ai fini en 25 heures sans avoir trop touché aux quêtes annexes. Pour se dire, voilà, on n'est pas dans la catégorie des 15-20 heures, on est dans la catégorie des 20-25 heures, des gros jeux à la PlayStation. Et finalement, ça lui porte un petit peu préjudice, quoi.
Bah, ils se mettent au niveau, en fait. Ils essayent de se mettre au niveau par rapport à l'ambition de et la comparaison. Après, double A, triple A, la problématique, c'est que, en fait, on juge un double ou un triple A par rapport au budget, mais surtout par rapport au genre. Un triple A de jeu de baston coûtera bien moins cher que peut-être un double A de beat'em up, de beat'em up, ou je sais pas. En fait, ce que je veux dire, j'ai pas le bon exemple, mais c'est que tu juges la capacité d'un jeu financière à son genre qu'il entreprend, tu vois. Et le souci, et le piège, mais aussi l'ambition avec Banisher, c'est qu'ils ont voulu se mettre au niveau des jeux PlayStation, comme tu dis. Donc, ils ont pris le genre reine, roi de le jeu solo. Aujourd'hui, c'est Last of Us.
Là où t'as les jeux les plus friqués.
C'est les jeux les plus friqués. Donc, la capacité du jeu à faire un TPS ou un jeu narratif à troisième personne, il y a directe comparaison avec God of War, Last of Us. Donc, c'est bien parce que tu vas aller essayer d'aller récupérer le public de ces jeux-là, mais t'es en comparaison directe. Et c'était le cas de Plague Tale avec ces jeux-là.
Donc, ouais, et puis il en prend même des choses qui sont aujourd'hui devenues un petit peu discutables, hein, tu vois, sur ce loot à foison. Moi, c'est quelque chose qui me rend un petit peu ouf. Ces arbres de compétences, cette surcouche RPG qui existe, mais qui est finalement, je trouve, un petit peu annexe et pas forcément très très utile, quoi. Tu vois, comme Remember Me et Vampire, Banishers, on voit que c'est l'affiliation clairement de cette branche-là chez Dontnode. Tu sens que c'est le projet Wannabe et AAA, et je dis pas ça de manière péjorative, c'est juste que c'est un peu le jeu vitrine de Dontnode, le jeu un peu fierté où tu vas montrer un petit peu les muscles en disant « Regardez, on peut être comme dans la cour des grands ». Et moi, c'est pas le Dontnode que je valorise le plus, tu vois. Je trouve que Dontnode, il est jamais aussi fort que quand il essaie d'explorer les chemins de traverse, en fait, et qu'il essaie pas de ressembler au triple A un petit peu à la mode.
Oui.
Là où il va essayer vraiment de creuser son propre sillon sans chercher à copier ce qu'il faisait ailleurs. Et justement, je trouve qu'on est l'argument principal, enfin, vraiment là-dessus, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'ai mis en lumière plutôt les choses qui marchent pas trop dans Banishers. Moi, c'est quand même un jeu, moi, que j'ai trouvé plutôt cool, que j'ai bien apprécié, qui est très attachant et qui a grave de la gueule, hein, je l'ai dit, il a des règles classes, visuellement, les graphismes, il est super cool, qui a une écriture de qualité, une ambiance réussie, mais je trouve ce système de choix, le fait que ça ne fonctionne pas à mon sens, je me dis, tu vois, est-ce qu'ils ont pas perdu beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour aller là-dessus? Et c'est un peu pareil dans Vampire, en fait, c'est d'avoir absolument ce côté où tu veux avoir un choix et orienter ton aventure. Moi, je trouve que ça marche pas, en fait, et qu'ils devraient mieux peut-être essayer de mettre ça de côté pour essayer de mettre toute leur force dans le reste de l'aventure, quoi.
Après, cette politique de choix, en tout cas, cette direction au niveau du game design, c'est Est-ce que c'est aussi quelque chose qui est représentatif, identitaire, de Dontnod? C'est vrai qu'il y a plusieurs
oui,
jeux.
Oui, clairement, clairement. Et enfin, là, je pense s'ils écoutent, ils vont dire mais non. Enfin, nous, on veut mettre ça en valeur. C'est quelque chose qu'on juge important. Mais pour avoir lu des interviews des développeurs, ils savent que dans Vampyr, ils avaient créé aussi des dissonances qu'ils ont voulu corriger là-dessus. Mais je trouve qu'on n'est pas encore vraiment dans la formule et. Voilà, enfin le trou d'avoir délégué le choix du joueur à un couple de personnages déjà, il y a cette dissonance bizarre un petit peu qui intervient et le fait que ton choix ne soit pas finalement challengé tout le long de l'aventure, bah je trouve que ça vient un petit peu à l'annihiler et encore plus c'est que ça va même mettre en sourdine les autres choix que tu aurais pu faire qui vont être influencés du coup là-dessus quoi.
Ouais. Après tristement, on revient toujours à des considérations d'argent et de budget mais il est sûrement certains qui sont au courant de ça et que ils se sont dit mais évidemment qu'on veut que le jeu y réponde, évidemment on veut que mais ça aurait dû demander peut-être plus de temps, plus d'argent, ou en fait ouais. Des considérations différentes. C'est toujours compliqué de.
Mais c'est
de
pas mettre... tant dans le côté réponse qui manque, tu vois. Moi, dans, encore une fois, pour parler de Witcher 3 et des quêtes annexes, c'est qu'on va te faire face à une situation où souvent tu vas devoir faire un choix, mais t'auras aucune conséquence. C'est juste le fait d'avoir fait ce choix qui va me rester en tant que joueur et me dire, ah, putain, est-ce que c'était le bon choix? Mais je m'en fous qu'il y ait des conséquences et que dans 10 heures, je retrouve un perso ou pas. Enfin, ça, moi, ça m'a jamais intéressé, ça, ce côté, répercussions, en fait.
D'accord.
Ça, je trouve que c'est vraiment un gimmick et le peu de fois où c'est fait dans Banishers, c'est vraiment à la marche, quoi.
Okay.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, d'avoir fait ce choix-là et de devoir l'avoir sur la conscience. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Voilà.
Et en fait,
c'est
le jeu, plus, quoi. En tout cas, Banishers, à aucun moment, t'as fait regretter ce choix ou te l'a fait questionner?
Non.
Peut-être ça le souci. En tout cas, t'en retires in fine.
J'ai vraiment bien apprécié mon aventure malgré tout, et je trouve même les tests que j'ai lus un petit peu durs avec le jeu, hein, donc là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que il a peut-être survendu des gimmicks qui au final ne sont pas si importants que ça, et si c'est peut-être plus de simplicité, finalement, ça aurait peut-être plus utile.
Ah, mais ça, toujours. À l'os, les jeux, il faut que ça soit le plus simple possible. Après, c'est pas forcément ce qui fonctionne, et c'est aussi assez compliqué à vendre. Hein. Donc, il faut vendre sur les différentes features, le jeu, il est à choix, il est disponible et tout. Dans tous les cas, c'est un jeu que tu conseilles, c'est un jeu qui est sorti cette semaine.
Ouais, donc... et qui est même vendu un petit peu moins cher. Hein. Je crois qu'il a 60€, donc ça reflète aussi son positionnement. Enfin, si vous êtes fan des God of War, que vous avez kiffé Plague Tale, que vous avez kiffé ce genre de trucs, je pense que il pourra vous combler. Faut pas être le plus à cheval. On est plus sur un jeu où l'intérêt est narratif plutôt que sur le gameplay, même si je trouve le gameplay plutôt correct. Mais voilà, si vous attendez pas, comme j'ai dit, un God of War avec un gameplay ultra pointu, un système de combat avec des variantes d'armes et tout. Non, ça reste plutôt simple.
Okay.
Moi, je trouve que ça fait le taf, mais il y en a qui sont pour qui c'est un petit peu limité, quoi.
Donc, que ce soit Grand Blue Fantasy Relink ou ce Banishers, peut-être des jeux à se renseigner, essayer.
Des jeux à condition.
En tout cas, il faudrait que Dontnod sorte le prologue en démo. Je pense que ça serait assez convaincant
pour
pas mal
clair,
de monde.
Parce que c'est vrai que, enfin, on a beaucoup de streamers, mais qui ont lancé le début du jeu, évidemment, pour montrer. Et je pense que c'est le meilleur argument de vente qu'ils ont, quoi, là-dessus. Hein.
On vous encourage à vous faire votre propre avis et dites-nous ce que vous en avez pensé en fait des chroniques, de ces avis, tout ça. On va vous remercier très très chaleureusement pour votre fidélité, les notes, les likes, tout ça, c'est vraiment mortel et ça aide beaucoup. Et on va vous le répéter, si vous aimez nous écouter, si vous aimez les émissions et les différents formats de podcast, vous aimerez peut-être nous lire. Alors on n'a pas de
sûrement
lire.
Même nous.
Ouais, on n'a pas de lire sur Banishers, mais sur le JRPG, on a 2-3 trucs.
Bon, les RPG, on a ce qu'il faut, hein, mais notamment la sortie, une des sorties les plus récentes, c'est celui qui est derrière nous, Enquête de JRPG.
Ouais, qui est sorti en décembre dernier.
Ouais, c'est quoi, c'est qui va revenir un petit peu sur le genre. D'expliquer un peu d'où il vient ou pas.
Mais pourquoi Grand Blue Fantasy Relink n'est pas du tout dans ce sillon de l'époque et qui va en train de creuser la nouveauté de ce genre, nouveauté qui plaît pas à tout le monde, hein, par exemple comme ce FF16 qui va chercher aussi plus d'action. C'est des questionnements très, très complexes sur qu'est-ce qu'un genre. On en a souvent parlé aussi dans Red Alert. Et dans Red Alert, on parle de quoi la semaine prochaine? Petite émission un petit peu particulière parce qu'on a des conditions d'enregistrement aussi différentes.
C'est
un petit peu en début de semaine pour nous. On va parler d'avenir et on va parler de consoles portables.
On va parler de portables. Alors, on avait trouvé un bon titre que j'ai déjà oublié en tête.
C'est les nouvelles consoles portables.
Voilà, donc on a eu l'occasion d'essayer notamment, la PlayStation Portal, la Playdate, tout ce genre de consoles un petit peu alternatives qui... le secteur des portables, c'est un secteur contre toute attente qui est très dynamique et qui est très changeant. Et on pourra aussi peut-être revenir sur les rumeurs de nouvelles. Enfin, on parle de nouvelles PlayStation portables éventuellement, d'un hardware, un device portable pour Xbox.
Ouais, on fera une petite situation du marché et on va se projeter sur quel est l'avenir de ces consoles portables avec Nintendo qui a décidé de faire les deux en même temps et qui a inspiré pas mal de monde.
Ouais. Pense. Et matin en vidéo parce qu'il y aura, je pense, des démonstrations en plateau, comme on dit.
N'hésitez pas à regarder en vidéo. Sur YouTube, mais aussi sur Spotify, et on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. On vous remercie très chaleureusement et on vous dit à la semaine prochaine.
Bye bye.